samedi Sabatier avec Amir à l'occasion de la sortie d'État d'amour, premier extrait du nouvel album, sorti prévu le 27 octobre.
Alors moi je suis très heureux de vous retrouver ce 23 septembre, j'espère que vous avez passé une bonne matinée, une bonne semaine. Amir est là avec nous pendant une heure, ça va bien Amir ?
Très bien et vous ?
Déjà des souvenirs puisque la première fois que j'ai pris ce micro il y a un an, mon premier invité s'appelle Amir.
Vous n'allez pas rendre alphabétique en fait.
Non, c'est-à-dire qu'on invite d'abord, je crois, ceux qui nous font plaisir et on invite aussi ceux qui font plaisir au public. Et tout compte fait, avant d'entamer la grande interview, je me dis qu'il y a des gens qui sont doués pour être sympathiques et plaire au public et vous en faites partie.
Ah, c'est gentil.
Non mais c'est vrai quand même. Non mais voilà, parce que depuis un an et bah, tout va bien quoi.
Ouais, j'ai l'impression que cette relation entamée avec le public ici, qui ne me connaissait pas il y a peu de temps de ça, et qui maintenant semble être devenu mon ami. Je généralise, mais j'ai vraiment cette sensation-là où je me suis fait plein de nouveaux copains dans toute la France et que je vais à leur rencontre depuis un an et demi. Je m'amuse comme un fou.
Il y a un nouvel album, il va venir le 27 octobre, ça s'appelle État d'amour.
Le premier titre s'appelle État d'amour, pour l'album on réfléchit encore.
Ah oui, ah tiens, le prénom n'est pas encore trouvé de l'enfant.
Pas encore, non, mais on a encore 2 mois, donc il n'y a pas d'urgence.
On se dit que c'est important cet album, que là il ne faut pas se rater parce que ça a tellement commencé fort que... on est obligé de marquer ce point.
Absolument. On a été même un peu surpris de ce qui s'est passé avec ce premier album. On l'a laissé dans la nature, on l'a laissé évoluer. On savait pas qu'il allait vivre un parcours aussi surprenant. Donc c'est normal que la volonté de faire un deuxième album qui ne déçoive pas était là tout le long du travail. Mais d'un autre côté, j'ai essayé de me focaliser sur la chance que j'ai de faire un second album en connaissant les personnes à qui je m'adresse, ce qui n'était pas le cas dans le premier, quand j'étais totalement anonyme. Et donc, je pense que c'est plus simple de s'ouvrir quand on sait et quand on se sent rassuré par les personnes qui vont écouter ça par la suite.
On y parle beaucoup d'amour.
Oui, parce que dans le premier, je me suis empêché de le faire. Je voulais faire un album très personnel parce que j'estimais que c'est comme ça qu'il faut se présenter aux gens. Dans le second, on avance sur d'autres thèmes, on s'ouvre un petit peu l'esprit et l'amour fait partie de ces thèmes, oui.
Ça veut dire qu'en écoutant ce que l'on va faire, le deuxième album à partir du 27 octobre, on va avoir fait le tour de Monsieur Amir ?
Je pense que... c'est jamais le tour parce que le lendemain de la sortie de cet album, je serai déjà en train d'écrire des chansons sur des thèmes que j'ai pas encore abordés parce que la volonté est là et on a toujours plein d'idées. Mais je pense que je vais quand même dévoiler beaucoup de choses qui n'ont pas été dévoilées sur le premier opus et ça me permettra de faire avancer cette connaissance avec le public, cette rencontre, l'approfondir, la rendre encore plus intime. Et puis c'est toujours intéressant de s'aventurer dans des nouveaux horizons.
Le principe de l'émission est le même que celui de l'an dernier parce que ça marche bien. Une tablette, il y a des mots qui vont apparaître et à partir de ces mots, moi je dois faire des questions. Allez, premier mot. Le lieu idéal pour faire l'amour, c'est plus qu'un mot ça, c'est un endroit. Alors est-ce qu'il y a un lieu idéal pour faire l'amour ?
Waouh.
On commence bien. Hein. Bon appétit, mesdames et messieurs. Alors,
c'est
plus
compliqué.
Le samedi matin, on peut écouter même cette émission allongée, couchée dans son lit.
Ben alors, restez dans votre lit si vous y sentez bien que vous êtes accompagné par une personne que vous aimez. Alors, c'est peut-être là le lieu idéal. Je pense que ça n'a pas de définition. C'est comme quand on me pose la question, quel est ton goût dans les femmes ? Il y a tellement de paramètres qui font en sorte que la magie opère que donner une recette, je trouve que ça banaliserait la chose. Et il n'y a pas de lieu idéal pour faire l'amour. Il y a des gens idéaux, un temps idéal et une constellation de plein d'éléments qui se rejoignent.
Quand on écrit une chanson, on peut tout imaginer. C'est quand on écrit une histoire, on écrit un roman. On peut aller même jusqu'au bout de ses fantasmes. Dès l'instant où il y a de la musique, c'est autre chose. Ça devient pas quelque chose de vulgaire, mais quelque chose de sensuel. Alors je repose la question, le lieu idéal pour faire l'amour ?
Une plage, peut-être.
Alors, un autre mot, petit garçon. Ah oui, Amir, petit garçon, il était comment ?
Alors, je peux me référer à ce qu'on m'a raconté parce que quand j'étais petit, je pense que je réalisais pas totalement la personne que j'étais, ce que je dégageais. Je sais que j'étais très agité. Je sais que à l'école, il y avait une dualité parce que d'une part des soucis de comportement, mais de l'autre part de très bonnes notes. Donc les profs savaient pas trop comment m'aborder et quoi faire avec moi. Je me souviens que en primaire, on m'avait fait un coin pour me reposer quand je finissais mes exercices, parce que je terminais assez vite, et j'allais lire un bouquin pour pas que je perde la concentration ou que je commence à perturber les autres. Plus tard, au collège et au lycée, on me faisait sortir de la classe pendant 5 minutes pour me reposer, parce que
hyperactif, absolument.
Mais ce qu'on me disait, et ça, c'est ce que je tire de ce qu'on me raconte, c'est que j'étais insolent, apparemment, mais avec du charme. Donc il y avait ce côté où je poussais les limites, je faisais des choses qui n'étaient pas totalement bien, mais le sourire qui clôturait la bêtise la rendait beaucoup moins difficile à digérer.
Alors petit garçon, c'était où? Dans quel endroit?
Ça se partageait, parce que ma maternelle, mon CP, mon CE1, je les ai fait en banlieue parisienne à Sarcelles. Et ma famille a déménagé à Tel Aviv, donc le reste de ma scolarité, je l'ai fait là-bas.
Alors, quand tu avais 7 ans, 8 ans...
J'étais à Paris, à Sarcelles.
Mais tu rêvais de quoi? Tu rêvais déjà de faire chanteur, ou alors pas du tout?
Je ne sais pas si chanteur était mon axe choisi, mais je rêvais d'exister. Et je me rappelle que je disais à ma petite sœur que quand je serais grand, je serais mannequin, acteur, chanteur et joueur de tennis professionnel. Je voulais tout être, je voulais exister, je voulais qu'on me connaisse, je voulais me faire remarquer. Et dans mon enfance, en fait, je pense qu'une des raisons pour lesquelles l'hyperactivité devenait parfois toxique, c'est que je me défoulais en faisant le clown pour qu'on me remarque, je grimpais sur les tables, je criais en classe pour que la fille dont j'étais amoureux me remarque, plutôt que d'essayer de venir la voir avec du charme et de la gentillesse. Je lui tirais dans les nattes et... ou bien j'essayais de faire le fou autour d'elle. J'avais cette espèce de volonté de me faire remarquer, faire le pitre. Un truc qui s'est beaucoup atténué avec le temps, quand je me suis plus canalisé dans mon comportement et que j'ai découvert que, par exemple, la musique, c'était une façon plus élégante d'être là.
Amir qui parle, Amir qui chante, puisque c'est son émission, voici le disque.
Midi 13h, samedi, Sabatier. Patrick Sabatier est sur MFM Radio. Samedi Sabatier, l'interview.
Surtout Amir, pendant une heure, un peu moins d'une heure. Le temps passe vite quand on parle et quand on l'écoute. Allez, un autre mot, fidèle. Alors oui. On avait parlé de fidélité il y a un an, je ne voudrais pas ressortir l'extrait, mais ça m'avait intéressé ce que... Alors, je ne sais pas si je dis tu ou vous, en tout cas, ce que vous aviez dit, je vais rester dans le domaine de la radio, parce que vous m'aviez répondu que oui, évidemment, fidèle, mais... que tout compte fait, fidèle à quoi, fidèle comment, enfin, que c'était très difficile d'être sûr de soi là-dessus. Et moi, j'avais trouvé ça assez honnête.
Je pense que ce sont des choses qui ne changent pas foncièrement, mais qu'aujourd'hui, avec le recul, le temps passé dans ce métier qui, au début, peut être bouleversant parce qu'on prend des nouveaux repères, on devient une personnalité publique, il faut partager son être avec plus de gens que notre chérie ou notre famille. Au début, on a l'impression d'être infidèle par essence, parce qu'on donne de l'amour à d'autres et parce qu'on donne du temps à d'autres. Et je pense qu'il y a un temps d'adaptation. Une fois ce temps passé, les choses commencent à devenir beaucoup plus, peut-être, s'encastrer dans des cases plus stables.
Ouais.
Exactement. Et je pense qu'il n'y a pas que moi qui ai fait un travail sur moi et qui ai compris des choses. Je pense que mon entourage proche aussi. Et une fois ce temps d'adaptation passé, ben, on vit en harmonie avec cette nouvelle vie, avec le côté public de mon existence. Mais voilà, c'est pas facile dès le premier jour, c'est sûr.
Mais tout compte fait, puisque vous nous disiez que vous aviez envie d'être célèbre, d'être connu, de vous faire remarquer. Vous avez réalisé un rêve, là.
Absolument, mais j'ai jamais voulu que ça vienne en dépit d'autres valeurs qui me sont importantes depuis toujours. Et voilà, aujourd'hui, je suis ravi parce qu'avec le temps, les choses se sont beaucoup plus stabilisées, comme vous l'avez dit. Et je pense que je suis maintenant sur une espèce de vitesse de croisière où on sait comment partager son temps entre nos chers et le public, qu'on connaît moins, évidemment, mais à qui il faut aussi savoir donner beaucoup, beaucoup de reconnaissance et d'amour.
Et de temps. Un autre mot. Amir fait son émission. Je dors dans le noir complet. C'est vrai, ça?
Oui. Je suis très, très dérangé par la lumière. Moi, je pense qu'on est partagé entre deux catégories de dormeurs, ceux qui n'aiment pas le bruit et ceux qui n'aiment pas la lumière. Pour moi, j'aime pas la lumière, le bruit me dérange beaucoup moins. Je suis capable de m'endormir dans une boîte si les spots ne sont pas sur ma figure.
Ah ouais, d'accord.
Mais il faut qu'il fasse noir.
Plus globalement, est-ce que vous faites attention à votre santé? Est-ce que vous faites attention? Vous êtes très sportif. Vous me disiez en entrant pour l'enregistrement dans cette émission que vous veniez de faire un triathlon, ce qui est quand même drôlement dur, au Portugal, Ironman, c'est pas n'importe quoi. Est-ce que vous faites attention à vous? Est-ce que vous avez un régime? Est-ce que vous vous dites non, le soir, quoi qu'il arrive, je dis n'importe quoi, à 23h, je suis dans mon lit, comment vous faites?
Non, je vais pas avec, j'ai jamais fait les choses avec une rigueur trop dure, parce que j'aime pas m'imposer des choses qui enlèvent le plaisir de la vie. Mais j'essaye de faire tout ce que je fais avec modération. Il est important de faire attention à sa santé, surtout dans mon type de métier où on ne dort jamais au même endroit, où on ne dort pas beaucoup, où on voyage, où on se défoule énormément sur scène. Donc le sport équilibre un peu tout ça et c'est très important. Je sens que ça me fait du bien partout dans le corps comme dans la tête. Régime? Pas forcément de régime, mais encore une fois sans excès, c'est-à-dire que même si je mange pas que des salades, je vais pas commencer à manger des burgers frites tous les jours. Essayer d'être intelligent et de gérer sa vie avec une part de plaisir et une part de conscience de ce qui est important et ce qui est sain. Parce qu'en général, c'est vrai que ça se marie pas. Alors moi, j'ai eu la chance de découvrir qu'à travers le sport, je prenais et du plaisir et que c'était bon pour la santé. Mais en règle générale, si parfois j'ai envie de boire une bière avec les copains, je le fais sans aucun souci, mais sans exagérer.
Alors, plaisir d'écouter Florent Pagny, c'est vous qui l'avez choisi, pourquoi ?
C'est simple, c'est un titre qui est sorti là dernièrement et La beauté du doute est une chanson qui a été écrite et co-composée par mon ami Nazim, qui est aussi mon collaborateur artistique depuis le début de cette aventure, et j'ai beaucoup aimé voir comment il a prêté son art et sa patte à un artiste comme Florent Pagny. C'est différent parce que j'ai l'habitude de chanter des chansons qu'on écrit ensemble, mais voir ce qu'il fait pour les autres, c'est toujours une belle découverte.
La beauté du doute, vous êtes sur MFM Radio, première radio sur la chanson française, et c'est Florent Pagny.
Samedi Sabatier, avec Amir, à l'occasion de la sortie d'État d'amour, premier extrait du nouvel album, sortie prévue le 27 octobre.
J'ai l'impression, en vous écoutant, mais ce n'est peut-être qu'une impression, qu'il ne peut rien vous arriver. Que vous êtes, quand je dis peut rien vous arriver, c'est un compliment, hein. Que vous êtes les pieds sur terre, que vous savez où vous allez, qu'on ne va pas vous la faire, et que vous savez où est le principal, où est l'essentiel, et vous savez où est l'accessoire.
Ben merci, c'est ce que je me souhaite en tout cas.
Mais est-ce que c'est ce que vous ressentez ?
Je ne sais pas, j'aurais du mal à me définir comme tel.
Qu'est-ce qui pourrait vous faire dérailler ?
Tout. Et rien, finalement. Parce que je pense que je suis pas invulnérable, mais les barrières de protection sous forme d'une famille et des amis qui ont tous, je pense, un état d'esprit tellement sain et tellement bienveillant me permettent de traverser des moments qui sont peut-être compliqués pour le commun des mortels, et je suis le commun des mortels, moi-même. Donc je suis très heureux, je l'ai toujours dit, d'être aussi bien entouré. Je pense
vous étiez venu l'an dernier dans ce studio de MFM Radio, il y avait votre maman.
C'est vrai.
Elle va bien.
Et ma sœur aussi.
Elle va bien.
Elles vont très très bien. Elles sont d'ailleurs à Rome. Je les embrasse.
Vous les embrassez de ma part également.
Absolument.
Allez,
promis.
On y va. Alors, dites très vite cette phrase. Alors, on a une phrase. Je ne sais pas si vous allez savoir la dire très vite. C'est un exercice de diction.
Et d'ailleurs, quand on fait une chauffe vocale, on s'entraîne aussi sur ce genre de choses. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches?
C'est un peu bien. Plus vite.
Les chaussettes de l'archiduchesse sont sept. Bah, ça y est, vous m'avez perdu.
Non, mais attendez, moi je ne sais même pas le faire.
Mon coach vocal, il est indulgent. Et...
Voilà, se chauffer la voix, ça obéit à une discipline très particulière, ça demande des exercices très particuliers.
Absolument. Avant de monter sur scène, à chaque fois, cette chauffe vocale, c'est en fait ce qui me sauve et qui me permet de tenir un concert entier jusqu'au bout avec une voix qui ne déraille pas, qui ne se casse pas, parce que c'est un élément fragile, la voix, et surtout d'assurer encore un show le lendemain, le surlendemain, etc. J'ai cette discipline et cette rigueur du travail sur la voix depuis le début de mon parcours. J'ai un coach vocal qui s'appelle Pierre-Yves Duchesne et qui est toujours là pour moi. On se fait des Skype, peu importe où je suis, en France ou ailleurs, à l'étranger. Il me fait les exercices qu'il faut faire en fonction de ma condition vocale pour pouvoir assurer un concert. En plus, il faut le dire que les chansons que j'écris sont en général beaucoup plus faciles à chanter en studio studio quand on a 20 prises de possible que ensuite en live quand on en a qu'une seule et qu'on est devant les gens. Mais grâce à lui, ça se passe beaucoup mieux. Et je pense que il y est pour beaucoup si je tiens la cadence. Ouais.
Émission consacrée à Amir. Un autre mot que je vais découvrir avec lequel je donnerai tout ce que j'ai pour. Alors Amir, vous donneriez tout ce que vous avez pour qui, pourquoi ?
Ça va être un peu égoïste, mais en même temps, c'est le reflet d'une peur qui m'accompagne depuis toujours. Moi, j'ai peur de mourir. J'ai pas envie de disparaître. Je pense que ça rejoint ce qu'on s'est dit au début de l'interview avec la volonté d'exister. Pour moi, du moment que je quitte, je descends de l'arche, je quitte cette machine qui avance, qui s'appelle le monde. Il y aura tellement de choses qui vont se passer après moi et dont je n'aurai pas connaissance, à part si évidemment on croit à la vie après la mort, mais là j'essaye d'être quand même plus terre à terre. J'ai tellement peur de mourir que je crois que je donnerai tout ce que j'ai pour rester ici et observer ce qui se passe. Et
vous savez bien, vous savez bien quand même qu'on n'est pas immortel.
Je sais, mais j'ai toujours eu du mal à l'assumer.
Mais il va falloir vous y faire. la meilleure façon d'en profiter, c'est de se dire que justement ce n'est pas éternel.
Oui, c'est vrai, mais je prends tellement de plaisir à profiter de chaque instant de la vie que je voudrais qu'elle dure.
Je vais vous aider, vous avez bien fait de venir. Quand vous vous endormez à un moment donné, oui. Le soir,
oui.
Et à un moment donné, vous n'êtes plus vous-même, c'est terminé.
C'est vrai.
Paraît-il que ça se passe comme ça.
Sauf que quand on
et
dort...
Et le lendemain, bon, on n'est pas là. Mais,
oui, je comprends.
Mais on n'a pas la conscience de ne pas être
absolument.
Là.
Absolument.
Donc, on est malheureux.
C'est rassurant ce que vous dites.
On est malheureux que des choses dont on peut avoir la conscience.
Absolument.
Mais si on n'a plus la conscience, voilà. Vous, comme moi, et vous, bien sûr, bien longtemps après moi, vous ne verrez pas l'an 3000, l'an 4000, l'an 5000.
Absolument.
Mais ceux qui verront l'an 3000, l'an 4000, l'an 5000 ne verront pas et ne voient pas ce qu'on est en train de vivre.
C'est vrai. Mais eux, ils peuvent le lire dans les livres d'histoire.
Allez, on va être positif. Encore un autre mot. Mon premier amour, c'était, je vous laisse le temps de réfléchir, on va écouter Au cœur de moi, puis vous allez me raconter tout sur votre premier amour. Comment vous l'avez rencontré, comment vous l'avez séduit, comment vous l'avez embrassé, et est-ce que vous pensez encore à elle ?
D'accord.
Midi 13h, samedi Sabatier, l'interview sur MFM Radio.
Alors, vous l'attendez, cette révélation ? Est-ce que c'est une révélation ? C'est d'abord un bon souvenir. Le premier amour d'Amir, c'était quand ?
Si on considère que c'est la première fille que j'ai embrassée, j'aimerais me focaliser sur elle. C'était en 1997, j'avais 13 ans.
Ouais.
Et l'histoire est belle pour moi, en tout cas, parce que c'est une fille... Je vivais à l'époque à Tel Aviv, c'est une fille qui était venue... rencontrer son cousin qui était mon meilleur copain, donc elle est venue de France et quand on s'est vu chez lui un été il y avait un feeling qui passait très très bien, j'ai craqué pour elle et j'ai rien réussi à conclure à part peut-être lui transmettre le fait qu'elle m'intéressait, mais bon, elle devait prendre l'avion et repartir en France.
Mais vous aviez 13 ans?
J'avais 13 ans, oui.
Je suis pas dépassé. Je pense qu'à 13 ans, on ne conclut pas forcément toujours. Hein.
Ou alors, ça dépend qu'est-ce que c'est conclure. Peut-être que je me trompe. Non, pour moi, ça voulait dire embrasser, concrétiser l'amour.
D'accord.
J'ai pas pensé à plus que ça.
Parce que
c'était
je me disais...
mon premier baiser d'ailleurs. Donc à l'époque, j'avais vraiment aucune expérience. Mais tout ce que je voulais, c'était quand même lui faire comprendre qu'il fallait qu'il se passe quelque chose. J'y tenais. Et vient le jour où elle devait partir. Et ce que je découvre, à ma grande surprise, c'est qu'on monte sur le même avion pour Paris. Parce que mes parents sont partis à Paris et qu'ils m'ont emmené avec eux. Et donc, on est dans le même avion. Là, je me dis, bon, il faut que je prenne mon courage à deux mains. C'est l'occasion ou jamais, parce qu'une fois arrivé en France, on gardera plus contact, il n'y aura plus de points de commun quoi, qui nous rapprochera. Et c'est dans l'avion que je lui propose de venir avec moi dans la cuisine des hôtesses pour lui faire un aveu. Et on se met sur le côté, debout, elle me regarde, je la regarde et je lui dis que je suis tombé éperdument amoureux d'elle pendant son séjour à Tel Aviv. Est-ce qu'elle ressent quelque chose pour moi ? Elle m'a dit oui, absolument. J'ai dit, alors ça te dirait qu'on s'embrasse ? Elle m'a dit oui. Et c'est là qu'on a commencé à faire tourner les machines à laver. Et que du début à la fin du vol, c'était le fol amour. On a gardé contact par la suite jusqu'à présent, même si je ne suis pas en contact avec elle, à chaque fois que je sens l'odeur du parfum qu'elle avait, ça me ramène à ce souvenir à l'âge de 13 ans.
Comment s'appelait-elle ?
Cindy.
Cindy.
Ouais.
C'est une belle histoire. Hein ?
Merci.
Est-ce que vous êtes du genre romantique ? Vous tombez souvent amoureux ?
Oui. Oui, mais il est très facile de me décevoir. Ouais, donc en fait,
parce que vous attendez beaucoup de l'autre.
Oui, oui, et surtout que pour moi, tomber amoureux de quelqu'un, c'est par rapport à l'équilibre du positif face au négatif ou des avantages face aux inconvénients de la personne à mes yeux. Et au départ, comme je ne juge que positivement les gens, parce que c'est mon état d'esprit et mon approche, je tombe facilement amoureux parce que je vois devant moi une idylle, une perfection.
Mais le meilleur côté d'eux-mêmes.
Et comme en approfondissant la connaissance, 9 fois sur 10, on découvre aussi des défauts. Donc 9 fois sur 10, je suis déçu et je retombe de mon étoile.
Allez, un autre mot. Le plus lointain voyage, où est-ce que vous êtes allé très loin, très loin, très loin?
Waouh, j'avais 6 ans, je suis parti à Hawaï, mais malheureusement les souvenirs sont vraiment vraiment très très faibles parce que j'étais trop gamin, mais j'ai quelques petits flashbacks de ce voyage à Hawaï. Sinon, moi j'aime bien aller chercher les plages lointaines, mais c'est pas vraiment le bout du monde, que ce soit au Mexique ou en Thaïlande ou en Californie, mais je rêverais d'aller en Australie.
Oui.
Je rêverais de repartir à Hawaï pour rattraper les souvenirs qui ont échappé. Et j'aimerais bien visiter le Singapour.
Maintenant que vous êtes connu en France, ça ne va pas vous manquer de ne pas l'être à l'étranger quand vous allez... parce qu'il y a le quotidien ou dans la rue, là, quand vous passez, on vous reconnaît, on vous demande des autographes, une photo, un selfie, etc. Et tout d'un coup, on repasse à l'anonymat que vous n'aimez pas, l'anonymat.
Alors, je ne l'aimais pas, mais j'ai appris à l'apprécier aussi parce que c'est tellement équilibrant. Une des choses pour lesquelles j'ai une preuve la plus concrète de toutes, c'est que j'ai gardé Tel Aviv, là où vit ma famille, comme un espèce de sanctuaire complètement isolé où je ne suis ni célèbre, ni chanteur, ni rien de tout ça. Je suis juste la même personne que j'étais comme avant d'embarquer pour un avion pour Paris pour tenter ma chance dans la musique. Ce qui fait en sorte que cet endroit où j'aurai des opportunités éventuelles de développer ma carrière, je ne le fais pas et volontairement.
Ah oui.
Parce que ça me permet, en 4 heures de vol, d'aller voir ma famille et de n'avoir aucune influence extérieure, d'être tout simplement le même qu'avant. Et c'est très, très, très équilibré.
Quand on est célèbre, on n'est pas le même qu'avant ?
Non, naturellement, non. On essaye de rester le plus fidèle à ce que l'on était avant, mais on ne peut pas rester exactement la même personne, puisqu'il y a tellement de choses autour de nous qui changent que naturellement, ça influence aussi notre approche et nos réactions.
Vous entendez bien avec des gens de la génération qui est la vôtre, Vianney par exemple, des gens
absolument,
comme ça.
Absolument.
Vous faites souvent des concerts, des choses ensemble, des émissions de télé, vous vous rencontrez.
Tout à fait.
Vous avez bon feeling ?
Oui, pour la plupart. Enfin, je pense que...
Est-ce qu'il y a, et je ne me demanderai pas les noms, est-ce qu'il y a des gens que vous n'aimez pas ?
Alors, pas du tout. J'ai pas eu le temps de me faire des ennemis, d'ailleurs, j'ai pas eu de raison de m'en faire. Mais c'est vrai que je m'entends pas avec tous de la même façon. Ça part du normal. Bonjour, au revoir. Jusqu'au vrai copinage et au contact par téléphone ou les rencontres, etc. Mais non, j'ai pas d'ennemis, en tout cas pas à ma connaissance.
Vianney, vous l'avez choisi pour faire partie de la programmation de votre émission.
J'aime beaucoup cet artiste.
Samedi Sabatier avec Amir à l'occasion de la sortie d'État d'amour, premier extrait du nouvel album, sortie prévue le 27 octobre.
Donc je me rappelle, l'album sort le 27 octobre. Alors on est sur scène. Les applauses, et là vous partez. Racontez-nous comment ça se passe, les minutes d'après.
Alors c'est toujours un moment très fort en émotion, à la fois parce qu'on retrouve les musiciens qui étaient près de nous tout le long d'un concert, mais avec qui on ne pouvait pas directement échanger. Et dans ce moment, on se prend tous dans les bras et on se congratule parce qu'on a passé 1h30 de bonheur. En général, 99,9% des fois, c'est le cas. Et quand on descend de scène, pour moi, il y a déjà... quelques minutes où je laisse redescendre l'émotion, l'adrénaline, l'excitation, et c'est normal. Donc en général, je rentre dans ma loge, je souffle un petit peu. Puis, il m'arrive d'avoir que 5 minutes pour le faire parce que les gens commencent à frapper à la porte pour faire des photos ou des autographes, ce que je fais avec grand plaisir. Mais c'est vrai que dans les premières minutes, il m'est peut-être difficile d'échanger avec les gens, d'autant plus que comme la voix vient de faire un gros effort, il faut pas que je parle fort. Mais le sourire est toujours là parce que je suis conscient du fait que si j'ai pu faire ce concert, c'est grâce à ces personnes. Et je n'oublie pas du tout à quel point il est important de rendre ce qu'on me donne. Mais
alors après, il y a du repos, vous allez dîner, comment ça se passe?
Alors voilà, si c'est pas immédiat, les photos et les autographes, et que j'ai un peu plus de temps, oui, je vais dîner, parce que je ne mange pas avant le concert, étant donné que c'est dur de chanter le ventre plein. Et je vais dîner tranquillement, je finis de manger, puis je prends mon temps, des fois une heure, des fois deux heures, des fois trois heures, en fonction de la taille de la salle et du temps qu'on a de disposer, des régulations de sécurité, etc. Mais pour faire des séances de signature et d'autographe, et surtout pour moi, parce que la signature ou la photo, c'est pas ce qui m'importe. Moi, ce qui m'importe, c'est de pouvoir rencontrer les gens, les regarder dans les yeux, leur demander s'ils se sont amusés, faire cette espèce de connaissance physique réelle qui dépasse les frontières des réseaux sociaux, qui dépasse celles des télés, des radios. C'est vraiment ce contact humain, chaleureux et direct qui, pour moi, en plus, crée une liaison, une vraie fidélité avec les gens.
Allez, un autre mot, après ces confidences, quand je serai grand.
Quand je serai grand.
Alors, mais, je ne sais pas. Je voudrais simplement que vous me disiez, est-ce que vous vous voyez, est-ce que vous vous imaginez Amir dans 20 ans, dans 30 ans je suis sûr que vous avez pensé à votre carrière.
Ben, j'y pense sans y penser, en fait, parce que j'ai remarqué le long de ma vie qu'à chaque fois qu'on regardait les projets depuis un point de départ, ils semblaient insurmontables, trop grands, trop énormes pour pouvoir les faire. Et au contraire, si on vit les choses en évoluant peu à peu chaque jour et en grimpant les étapes progressivement, eh bien, tout ce qui semble sorcier peut finalement devenir beaucoup plus abordable. L'exemple le plus concret que j'ai eu, j'en ai des milliers, mais c'est le dernier, c'est cette préparation à l'Ironman. Quand je regardais en janvier 2017, un triathlon qui est constitué de 2 km de nage, 90 km de vélo et un semi-marathon pour clôturer tout ça, ça me semblait impossible. Et je le disais, ça me semblait impossible, je me suis lancé un défi surhumain, je n'y arriverai jamais. Sauf qu'au lieu de regarder en janvier ce qui doit se passer en septembre, il était plus intelligent pour moi de regarder chaque semaine ce que j'avais comme programme de semaine. C'est vrai, au début c'était un peu dur, et puis après, peu à peu, on s'y faisait, etc. Pour arriver finalement à la ligne d'arrivée de ce triathlon. Ce que je veux dire par là, c'est que me regarder dans 20 ans, ça me fait un peu peur. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais atteindre, et puis là, vu de 2017, ça me semble peut-être un peu chaud, un peu dur, mais que j'ai la motivation de ne pas arrêter de me travailler, de travailler, tous les jours, et de faire en sorte que cette carrière continue à évoluer, et que je continue à apporter des belles choses à mon public, et de les intéresser, et de leur donner du bonheur, autant que je peux.
Je rappelle que ça sort le 27 octobre, ce nouvel album, qu'on a écouté le premier single, État d'amour. Franchement, c'est très agréable de passer une heure avec vous. Je vous trouve très sympa, comme la première fois. Amir, merci beaucoup pour votre sympathie. On se retrouve, la semaine prochaine, ça serait bien, entre 12h et 13h, pour une autre grande interview, des mots pour le dire.
Samedi Sabatier, avec Amir, à l'occasion de la sortie d'État d'amour, premier extrait du nouvel album, sortie prévue le 27 octobre.